Classe sociale et inégalités à l'échelle européenne, enquêter sur les mobilités de santé. Au mois de mars dernier, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Budapest pour réclamer davantage de moyens pour un système de santé hongrois jugé à bout de souffle. Pourtant, la Hongrie demeure l'une des capitales européennes du tourisme médical, et plus particulièrement du tourisme dentaire, accueillant des patients venus de France, de Suisse, de Belgique ou d'Allemagne, leur promettant l'accès à moindre coût à des soins de réhabilitation dentaire très spécialisés. Chaque année, au cœur même de l'Union européenne, des milliers d'individus franchissent ainsi les frontières pour accéder à des traitements qu'ils ne peuvent ou ne veulent plus recevoir chez eux. À l'inverse, certains citoyens d'Europe de l'Ouest, expatriés dans des pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, choisissent parfois de revenir dans leur pays d'origine pour se faire soigner et négocient ainsi leur rapport au système de santé local. Que révèlent ces mobilités médicales des inégalités sociales qui structurent l'espace européen ? Nous en parlons aujourd'hui avec deux doctorants de l'EHESS. Eva Renaudot, bonjour.
Bonjour.
Tu es doctorante en sociologie à l'EHESS et ATER à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Ta thèse s'intitule pour l'instant « Un espace thérapeutique franco-roumain, perspective transnationale sur les pratiques de santé des Français et des Françaises en Roumanie ». Martin Angian, bonjour.
Bonjour.
Tu es doctorant en sociologie à l'EHESS et ta thèse s'intitule pour l'instant « Les dents du bonheur, enquête sur le marché du tourisme dentaire européen en Hongrie ». Vous travaillez tous les deux sur des questions de santé et de mobilité. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ces objets de recherche ? Eva, tu as fait le choix de la Roumanie.
Oui, alors, j'ai rencontré la Roumanie il y a super longtemps, en 2014, parce que j'y ai fait un Erasmus. C'était super rigolo parce que, pour le coup, je suis arrivée en cours et je ne parlais pas du tout roumain. Donc j'ai dû apprendre le roumain, je me suis retrouvée dans des classes à suivre des cours où je ne comprenais rien du tout et puis à la fin de l'année, c'est fini par rentrer. Et j'ai décidé de continuer à faire mes recherches en roumain pour continuer à approfondir la langue et à mieux connaître le pays. Et dans ce cadre-là, j'ai fait ma recherche de master sur les conditions d'accès aux soins des migrants et migrantes roms roumaines, donc en Seine-Saint-Denis avec une association humanitaire mobile qui faisait de l'accès aux soins. Du coup, j'étais interprète médiatrice en santé. Donc j'interprétais du roumain vers le français dans les consultations médicales. On était en binôme avec une sage-femme et on faisait du coup des consultations sur place et on accompagnait les patientes dans ce cadre-là aussi jusqu'aux structures de soins. Et à la fin de mon master, j'ai eu un petit malaise de chercheuse à savoir comment est-ce qu'on produit un savoir par et pour et sur avec notamment des personnes qui sont dans des conditions de vie, enfin d'économie de subsistance et qui ont peu de temps à dédier aux chercheurs-chercheuses. Ce que je comprends, et moi ça me dérangeait un peu de produire un savoir sur quoi. Et en même temps, dans ce cadre de cette recherche-là, je suis partie faire du terrain en Roumanie, et là j'ai rencontré une Française qui m'a dit « Ah mais moi, quand mon fils il est malade, je rentre en France ». Et ça tombait pile au moment où je constatais, dans le cadre de mon terrain dans les bidonvilles, que les patientes roumaines, elles faisaient aussi beaucoup d'allers-retours, elles conduisaient aussi des trajectoires thérapeutiques transnationales, beaucoup plus contraintes, ou en tout cas beaucoup plus en dessous des radars, parce qu'elles ont accès à rien nulle part, donc elles font comme elles peuvent, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo que ces deux patientes, elles aient la même réflexe, alors qu'elles sont très très loin socialement, et que du coup, les conditions de ces circulations et de cet accès aux soins, ils doivent être différents. Et donc, je me suis dit, vas-y, on part, on va voir ce qui se passe en Roumanie.
Martin, pourquoi avoir choisi ces questions de recherche dans le cadre de la Hongrie ?
Alors, j'en suis venu à travailler sur les dents. Ce n'est pas une passion qui m'a toujours habité, ou une obsession, même si maintenant, elle est un peu devenue, depuis. Je dirais que c'est lié à mon histoire familiale et personnelle et aussi donc un peu à mon parcours de recherche. Donc, je suis né de parents hongrois en France. J'ai un peu grandi entre ici et là-bas, donc en y retournant régulièrement. Et j'ai vécu 2 ans à Budapest dans le cadre de mes études, en échange. Et je me suis intéressé à la sociologie à ce moment-là. Donc j'ai commencé un premier sujet de recherche qui est assez éloigné, qui était sur les coursiers à vélo à Budapest, donc que j'avais fréquenté à l'époque. Donc je commence la recherche comme ça. Je continue mon master à Paris, je refais un deuxième mémoire sur les coursiers dans les beaux quartiers à Paris. Donc là, on se demande comment j'en arrive au tourisme dentaire. Donc pour ma thèse, en fait, de par mon histoire, en fait, ça a un peu façonné un certain regard sur les circulations en Europe et la question des inégalités et des représentations de part et d'autre de l'Europe. Et donc j'ai voulu proposer un sujet de thèse plutôt sur la question des circulations et des inégalités au sein de l'Union européenne et un peu comment l'élargissement vers l'Est a transformé ou modifié le capitalisme européen et les circulations. Donc au début, mon sujet, c'était beaucoup plus, par exemple, suivre une multinationale française depuis ses sièges en France jusqu'aux usines en Hongrie. Et donc parfois la recherche commence pas comme on veut. Et donc, ma première année de thèse a été une année blanche pendant le Covid. Et donc, en fait, c'est en relisant mes travaux de master, notamment quand j'ai travaillé 2 mois comme coursier à vélo, que je me suis souvenu que je livrais beaucoup de prothèses dentaires, de cabinets de prothésistes vers des cliniques qui étaient dans les beaux quartiers à Budapest et où, en fait, la patientèle parlait français, anglais, etc. Et donc, je me suis souvenu qu'il y avait ce phénomène du tourisme dentaire et donc que c'était un moyen de retomber sur mes pattes et que c'est un terrain très concret, en fait, pour aborder ces questions des circulations et des inégalités en Europe et des hiérarchies et des frontières Est-Ouest.
Dans ton cas, Eva, tu t'intéresses à la santé dans la migration, autrement dit au recours aux services de santé en tant que personne vivant à l'étranger, tandis que toi, Martin, tu t'intéresses davantage à la question de ce que l'on appelle le tourisme médical. Pourquoi avoir choisi dans vos deux cas ce type de mobilité, en particulier dans l'espace européen ? Eva, pour commencer.
Ça me semblait important justement de ne pas s'intéresser aux personnes qui se déplacent spécialement pour des raisons de santé spécifiques, mais plutôt comment l'expérience de santé elle prend place dans une expérience plutôt quotidienne, ordinaire finalement, et voir quelle place elle prend dans les trajectoires migratoires des Français rencontrés, mais aussi parce que souvent, quand on s'intéresse aux inégalités de santé en migration et aux expériences de santé en migration, c'est principalement, comme je le disais tout à l'heure, autour des questions de discrimination, et ça m'intéressait de voir comment est-ce que l'expérience de la santé en migration, de qu'est-ce que ça fait d'être malade dans un pays à l'étranger, de ne pas savoir comment est fait exactement le système, peut-être de ne pas parler la langue, etc. Ça va impacter les expériences migratoires à travers d'autres questions que celles de la discrimination et voir ce qui change aussi par rapport justement aux migrations, par exemple, rom-roumaines ou juste roumaines ou en tout cas de l'Est vers l'Ouest et voir ce que ça va changer globalement.
J'ai eu un bébé l'an dernier à Bucarest. Ça s'est très bien passé à la clinique privée Regina Maria, quoiqu'un peu long. C'était mon 5e enfant et ils n'ont pas l'habitude de femmes ayant eu beaucoup d'enfants. Et j'avais légèrement l'impression qu'ils s'attendaient à ce que je leur dise quoi faire, notamment pour une perfusion de liquide accélérant les contractions, mais rien de grave, la gynéco était très bien. J'avais avant eu une gynéco pour le suivi de grossesse qui était tout à fait francophile, francophone, et avait les standards français pour le suivi. En apprenant qu'il y avait 80% de césariennes en Roumanie, comme en Thaïlande, j'avais recherché un gynéco qui ne poussait pas à ça. Finalement, la nuit où je suis allée accoucher, elle était en France, alors tout s'est passé en anglais avec un gynéco que j'avais vu à ma première visite et que je n'avais pas voulu revoir parce qu'il ne m'avait même pas ausculté. Il s'était contenté de me prescrire toute une batterie de tests sanguins et urinaires. Finalement, il a été très bien lors de l'accouchement et pour la suite. Visite peu après et 6 mois après.
À quel type de soins en particulier tu t'es attachée d'observer ? On vient justement d'entendre la lecture du témoignage d'une femme sur le blog Femmes Expat intitulé « Ma grossesse en Roumanie ». Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors, au départ, mon projet de thèse s'intéressait principalement à la question de la santé reproductive et du coup, la grossesse, l'accouchement, etc., mais également la contraception, parce qu'il y a une histoire assez forte en termes de politique nataliste en Roumanie pendant le régime communiste. Et ça a beaucoup marqué la pratique de la gynécologie et de la santé reproductive en général. Il s'est avéré que, en fait, quand je suis arrivée sur place, il y avait pas tant de femmes enceintes que ça. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, donc ça a un petit peu déplacé le sujet de ma thèse. Donc, j'ai aussi choisi d'élargir à des questions de santé plus générales, mais je garde un focus sur la santé reproductive. Et pour commenter du coup cet extrait que je trouve hyper intéressant, ça montre plusieurs choses. Déjà, bon, ça revient très concrètement sur la façon dont le système de santé en Roumanie il est construit. On voit qu'il est divisé entre le système public et le système privé. Le système public est en très mauvais état, plutôt vétuste et souvent considéré comme un endroit à risque où on va être plutôt maltraité, où il va falloir payer peut-être des bakchiches, etc. Et à l'inverse, les cliniques privées sont un peu vendues comme un endroit de luxe, voilà, où on sera bien soigné, etc., mais qui par ailleurs coûte extrêmement cher. Donc ça fait déjà dans la société roumaine des inégalités. Et ce qu'on voit là dans cet extrait que moi je trouve super, c'est qu'à la fois il y a l'expérience de cette femme qui est à l'étranger et qui du coup se retrouve face à plein de contraintes de « elle ne sait pas comment le système de santé il est fait ». On voit un peu tous les enjeux de la langue qui font sens pour elle dans avoir un soignant qu'elle va comprendre, mais aussi avoir un soignant qui, par ailleurs, s'il parle anglais ou français, ça veut potentiellement dire qu'il a été formé en France ou en Angleterre. Et du coup, c'est aussi un gage de confiance dans la relation qu'il va y avoir avec le soignant. Et enfin, ce qu'on voit aussi, c'est un peu une vision occidentale de la médecine, puisque elle-même, elle projette un peu, enfin, elle dit, bah oui, finalement, j'ai été bien traitée, vous voyez, c'est pas si grave, etc. Mais quand même, ce médecin, il fait pas tout à fait comme nous en France, etc. Et donc, ça montre un petit peu aussi comment est-ce qu'elle a quand même suffisamment de, comment dire, de ressources pour pouvoir choisir ses soignants, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Martin, tu travailles sur le tourisme médical. Est-ce que tu pourrais nous le définir ?
C'est un terme qui est débattu. Moi, je le prends comme une catégorie qui est issue du terrain, enfin, donc qui est mobilisée. Alors surtout par ceux et celles qui produisent le marché, peut-être moins par les usagers en fait, qui se distancient d'une figure de touriste médical parce que finalement le tourisme prend une part très petite dedans. Donc voilà, le tourisme médical c'est plus une notion qui est un peu plus commerciale on va dire, enfin qui est issue des ou alors des études de marketing et donc un peu des travaux sur le tourisme médical. Et une définition simple, c'est juste d'aller dans un autre pays temporairement afin de recevoir un service de santé pour différentes raisons, dont le coût, les délais ou l'inaccessibilité dans son propre pays.
Donc pourquoi travailler sur ce type de mobilité en particulier ?
Alors moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que souvent, quand on parle de migration et santé ou de tourisme médical, il y a un peu très vite deux figures qui sont convoquées. Une première, donc là, on l'entend encore très souvent actuellement, les débats autour de l'AME, enfin, qui est instrumentalisée par l'extrême droite. Donc, ça serait plus la santé des migrants primo-arrivants en France. À l'autre bout du spectre, il y a aussi la migration de santé des élites. Par exemple, des richissimes émiratis qui viennent dans les cliniques privées à Paris. Enfin, donc voilà, il y a un peu ces deux pôles. Et au milieu, il y a ces personnes que j'ai rencontrées qui appartiennent aux classes moyennes et aux classes populaires les plus dotées économiquement, qui quittent la France. Donc la France devient un pays d'émigration dans ce cas, pour aller se faire soigner ailleurs.
Dans les deux cas, on parle de migration dite privilégiée. D'une certaine façon, Martin, tu viens de le nuancer. Vous avez rencontré au cours de vos enquêtes des individus appartenant à différentes catégories sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le profil sociologique de ces personnes, Martin, comme tu en parlais à l'instant?
Alors, mon enquête s'est beaucoup élargie, donc il y a plusieurs catégories d'enquêtés qui appartiennent à des univers sociaux qui sont parfois très différents. Donc il y a quatre catégories d'enquêtés. Une première, c'est celles et ceux, surtout ceux d'ailleurs, qui construisent et qui dirigent le marché. Donc ça va être les entrepreneurs extérieurs au monde médical et des dentistes qui ont fondé et qui dirigent les structures qui accueillent la patientèle étrangère. Donc ils dirigent et possèdent une clinique tout en restant implantologue en chef de la clinique. Ça m'a permis de retracer l'histoire du marché aussi. Donc au début, dans les années 80, ça va être des entrepreneurs exilés hongrois qui se lient avec les dirigeants de l'entreprise d'État des prothésistes et vont poser les fondations du tourisme dentaire hongrois, du marché. Dans les années 90, ça va être des dentistes qui deviennent des grands entrepreneurs post-communistes qui vont parfois fonder des empires à la frontière autrichienne, enfin donc avec leur propre hôtel, etc. Et à partir de 2004, l'adhésion à l'Union européenne, ça va être des entrepreneurs différents qui, cette fois, en fait, vont profiter de la libre circulation européenne pour développer un marché européen. C'est une niche qui est très lucrative. Par exemple, un des entrepreneurs pionniers du marché européen, il s'est versé plus de 12 millions d'euros de dividendes ces dernières années. La deuxième catégorie de personnes sur qui j'ai enquêté, c'est cette fois plus ceux qui produisent le marché, donc les dentistes, les assistantes dentaires, etc., mais aussi le personnel des cliniques, secrétaires, réceptionnistes, et aussi des personnels dédiés francophones qui vont accompagner les patients sur place. La troisième catégorie, c'est ceux qui intermédient le marché. Donc, il y a des agents spécialisés avec des commerciaux qui, comme ils disent, vendent les patients aux cliniques contre une commission de 15%. Et donc, voilà, j'ai observé leur travail pendant plusieurs semaines. Et enfin, il y a bien sûr les usagers, les patients ou les clients qui finalement se rendent en Hongrie et donc qui, eux, appartiennent aux classes moyennes et classes populaires qui parfois ont plutôt autour de la soixantaine, mais parfois même autour de la trentaine, et qui partent parce qu'ils ont besoin d'un gros chantier dentaire, et donc ils vont en Hongrie.
À ce sujet, on va entendre un extrait de ton carnet de terrain.
Jamel, 62 ans, est directeur du service jeunesse d'une mairie. Depuis l'âge de 40 ans, il porte des dentiers amovibles et crochets pour remplacer plusieurs dents absentes en haut et en bas de sa mâchoire. Il supporte très difficilement cette solution, du bas-coût en réalité. Il les porte par intermittence et vit avec un complexe permanent. Tu souris pas, tu te caches avec la main. En 2016, à l'âge de 57 ans, il cherche une solution plus pérenne à l'aide d'implants dentaires alors que de nouvelles dents lui sont extraites. Il est orienté vers un chirurgien spécialisé dans un quartier riche et cossu du centre-ville. Reçu 5 minutes dans un bureau très classe et très design, ce dentiste renommé lui annonce qu'il peut effectivement tout refaire. Jamel retrouve la secrétaire en sortant du bureau. Elle a préparé le devis. 23 000 euros, le prix d'une belle voiture. Choqué par le prix et par la confrontation à un autre monde, c'est un déclic pour Jamel. Après des recherches sur Internet, il découvre les cliniques hongroises. Le voyage est abordable, un aller-retour à 50 euros, un hôtel à 23 euros la nuit, et un agent français, rémunéré à la commission par la clinique, répond à ses questions au téléphone. Quelques mois plus tard, il franchit le pas. Le même plan de traitement lui revient à 11 000 euros, dont 7 000 euros à sa charge après remboursement.
Martin, est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, donc c'était pour donner un exemple de l'histoire des personnes que j'ai rencontrées, qui veut dire beaucoup aussi sur leur vécu en France, donc leur confrontation aux inégalités de santé. Le fait que Jamel se retrouve avec une dentition dégradée, ce n'est pas de sa faute. C'est aussi quelque chose à apprendre sociologiquement, alors que ça peut très vite être chargé moralement, enfin, mais ça serait de sa faute, donc c'est à lui de payer. Et donc, voilà, il se retrouve vraiment confronté à une impossibilité. Et donc, il est relégué à une solution de bas coût qui vit très mal. Donc, pour lui, c'est un vrai espoir et une vraie solution en Hongrie.
Eva, peux-tu nous en dire plus sur le profil sociologique des personnes auprès desquelles tu as enquêté ?
Alors du coup, moi, je me suis intéressée principalement aux migrants-migrantes françaises en Roumanie. J'ai rencontré quelques médecins, mais c'est principalement des migrants-migrantes que j'ai rencontrés. Du coup, j'utilise vraiment le terme émigré ou migrant-migrante justement parce qu'il y a assez peu de choses qui changent entre des Français qui s'installeraient en Roumanie et des Roumains qui s'installeraient en France en termes de droit européen, par exemple. Et on aura très rapidement tendance à dire expatrié parce qu'on a l'imaginaire des Français, voilà, qui sont, je sais pas, dans des grandes villas, etc. J'en ai aussi rencontré. Mais le groupe général, je dirais que c'est des émigrés ou des migrants-migrantes. Parmi ce groupe-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plutôt leur expérience de santé en Roumanie et la façon dont ils vont élaborer des trajectoires de santé ou leur parcours de soins, en tout cas en Roumanie, mais aussi comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer en France, le cas échéant, quand ils ont plus envie de rentrer, qu'il y a plein de raisons qui font qu'ils vont construire des trajectoires transnationales. Souvent, c'est qu'ils ont peur ou que les soins sont trop chers, pas assez chers, etc. Et ça, c'est vraiment conditionné par la protection sociale et la couverture maladie dont ces personnes bénéficient. Et donc, j'ai catégorisé mes migrants en 4 catégories professionnelles. Du coup, il y a les expatriés, donc c'est vraiment les personnes qui sont vraiment employées par des entreprises françaises et envoyées en Roumanie. Et à la différence des pays hors Europe, les expatriés sont vraiment souvent des PDG des entreprises françaises, alors que dans d'autres pays, comme je parle en Afghanistan par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'expatriés qui sont aussi managers, enfin à des postes moins importants, enfin avec moins de responsabilités en tout cas. Là, c'est pas le cas. Du coup, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de bénéfices en nature, donc des voitures de fonction, des grandes maisons et donc la protection sociale aussi. Ils sont rattachés à ce qu'on appelle la Caisse des Français de l'étranger, qui est un organisme privé qui fait que globalement, on est rattaché à la sécurité sociale aussi en France. Plus, ils ont des mutuelles de luxe, donc ça fait que globalement, ils peuvent aller n'importe où, ce sera gratuit dans le système privé, public en France et en Roumanie. Ma deuxième catégorie que j'ai choisi de définir professionnellement, c'est les VIE. C'est un peu comme des Erasmus, mais avec de l'argent. En gros, c'est des volontariats internationaux en entreprise. Donc, c'est des personnes qui sont employées par un organisme qui s'appelle Business France, auquel cotisent toutes les entreprises privées. Et du coup, ils sont envoyés après à des postes à l'étranger. Et ils ont plutôt des bons salaires parce qu'il y a après des primes de risque, mais pas que. Donc là, par exemple, ceux que j'ai rencontrés en Roumanie, ils étaient à 1800 ou 1900 euros par mois. Il faut savoir que le salaire moyen à Bucarest, il est à 800 euros par mois. Donc ça fait quand même pas mal. Et souvent, c'est des jeunes, trentenaires, célibataires, etc. À l'inverse des expatriés qui sont plutôt des couples avec enfants âgés, donc qui n'habitent plus avec eux. Et les VIE, ils ont un peu les mêmes avantages que les expatriés. Après, il y a les personnes qui s'installent en Roumanie durablement, qui du coup prennent des postes, souvent des enseignants de lycée français à l'Institut français ou ailleurs, et qui, eux, pour le coup, sont vraiment rattachés exclusivement au système de santé roumain, parce qu'ils sont détachés du système de santé français. Ils n'ont plus rien à voir avec la France, parce que c'est là qu'ils ne payent plus leurs impôts. Et enfin, il y a les gens qui sont un peu entre tout ça, c'est les entrepreneurs-entrepreneuses qui peuvent un peu choisir le système de protection sociale auquel ils veulent être attachés. Et du coup, c'est beaucoup plus de la bricole. Donc ceux qui décident d'ouvrir un restaurant en Roumanie, ils n'ont pas trop d'autre choix que d'être attachés au système roumain. Et ceux qui, les pigistes par exemple, typiquement, elles choisissent plutôt de rester attachées en France. Mais c'est aussi des personnes qui ont beaucoup moins d'argent. Quand on est pigiste, on n'a pas trop d'argent. Donc là aussi, on est rattaché en France, mais on n'a que la sécurité sociale minimum. Et du coup, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien. Et donc, on est couvert un peu comme on peut, quoi. Et ça conditionne aussi l'accès aux soins, donc en Roumanie, mais aussi les possibilités de circulation des patients-patientes. Cela étant dit, effectivement, on se dit qu'il y a des inégalités assez saillantes entre les expatriés qui ont des mutuelles super chères et les pigistes qui ont beaucoup moins d'argent et qui se retrouvent à devoir aller dans le système public quand elles sont malades. Néanmoins, ça reste quand même des personnes qui sont globalement diplômées pour la quasi-totalité de mes enquêtés et qui sont issues plutôt des classes moyennes et supérieures dans tous les cas, quoi. À l'inverse d'autres migrations, je pense, qu'on pourrait rencontrer en Roumanie. Voilà.
Vous aviez tous les deux pour objectif au départ de faire une ethnographie des structures de santé. Eva, cela a finalement été plus compliqué que prévu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Comme Martin, je me suis retrouvée coincée par le Covid. Je pense que mon avion a été annulé une semaine avant mon départ. J'avais déjà mes valises de prête, toute ma grille d'entretien, mon carnet de terrain, etc. Initialement, moi, je voulais faire des ethnographies d'hôpitaux et de structures de santé. Et je voulais aussi suivre les patients dans leurs déplacements entre la France justement et la Roumanie pour leurs rendez-vous médicaux. Ça ne s'est pas fait parce qu'on était confinés. Et du coup, moi, j'ai un peu pallié à ça en faisant une première vague d'entretien en Zoom. Donc, j'ai contacté des gens sur des groupes Facebook qui s'appelaient Les Français de Roumanie, de Bucarest, de voilà. Donc, c'était un peu étonnant. J'ai dû rendre ma vie Internet super clean. Parce que quand on contacte quelqu'un, un message privé sur Facebook en disant « Bonjour, tu veux participer à un entretien ?» Ça fait un peu peur. Donc, j'ai dû bien professionnaliser mon Internet. Et c'était assez intéressant. Et c'était aussi un peu touchant parce qu'on était tous et toutes un petit peu dans la panique du début de la pandémie. Les gens étaient parfois tout seuls en Roumanie dans leurs appartements. Donc, il y avait aussi toute une dimension un peu de faire sa thèse et prendre soin. Et ensuite, j'ai fait une ethnographie de 9 mois à Bucarest, durant laquelle j'ai aussi fait des entretiens avec d'autres personnes qui habitaient en Roumanie, mais c'était très difficile de se déplacer entre les départements parce que les confinements changeaient de département. Enfin voilà, c'était pas comme en France où toute la France était confinée ou déconfinée, et du coup, c'était super pénible. Et donc, j'ai pas pu aller dans les structures de santé. Donc, je me suis vraiment installée là-bas. J'ai passé beaucoup de temps dans la vie quotidienne de ces différents groupes. Donc, je passais beaucoup de temps avec les femmes d'expatriés à faire des moments de loisirs, de visites. Je passais beaucoup de temps avec les VIE à faire la fête, voilà. Et pour la santé, j'ai fait beaucoup des entretiens. Je me base principalement sur des entretiens biographiques de trajectoire de santé, ce qui pose plein de questions sur la question de l'ethnographie, etc. Mais c'était un peu les seules solutions que j'avais.
Martin, tu as pu avoir accès à une structure en particulier, notamment grâce au rôle de certains intermédiaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Comme disait Eva, qu'on s'est doublement fait avoir par le Covid, donc parce qu'on a un terrain international et qui implique des circulations internationales, et en plus que c'est une question de santé. Donc c'est vrai que ça a été difficile d'accéder à des structures de santé. Donc je suis arrivé sur le terrain en septembre 2020, et donc là les frontières commençaient à être fermées en Hongrie, et donc le marché était quasi à l'arrêt. Et donc ça m'a vite orienté plus vers donc des gens qui travaillaient dans les cliniques, du coup qui avaient du temps, les coordinateurs et coordinatrices sur place, et aussi les agents. Et donc il y en a un qui est devenu un enquêté privilégié un peu, c'est un Français installé en Espagne qui envoie des patients en Hongrie. Et donc assez rapidement, il m'a proposé de faire des vidéos de témoignages de ces patients, vu que je suis sur place à Budapest, et en échange, je peux rencontrer ces clients. Donc je dis, bah, bien sûr, deal, c'est une porte d'entrée sur le terrain. Vu que le marché était à l'arrêt, j'ai un peu laissé tomber ça et je suis revenu un an plus tard, en septembre 2021. Et cette fois, je voulais vraiment rentrer dans une grande clinique et faire l'ethnographie dont je rêvais. Sauf que les portes ne se sont pas vraiment ouvertes, même au contraire. Et donc, c'est cet intermédiaire en fait, qui m'a aidé en me donnant le contact d'un dentiste avec qui il travaille. Et donc, ce dentiste, il m'appelle. Donc, 30 minutes après mon mail, tout de suite, il me dit « on peut se tutoyer, il est très enjoué ». Et donc, il me dit « viens demain à la clinique ». Et donc, voilà. Donc, je suis assez surpris. Et le lendemain, donc, j'y vais. Il m'accueille. Entre deux patients, on fait vite un petit entretien. Il me propose même d'aller au terme l'après-midi pour qu'on discute. J'ai prétexté de ne pas avoir de maillot de bain. Je trouvais que les choses allaient vite. Et il me propose d'aller manger chez lui quand même, ce que j'accepte. Et donc, voilà, on discute. Bon. Après, je me rends compte assez rapidement que ce n'est pas qu'une question d'hospitalité très exceptionnelle, mais qu'en fait, il voit potentiellement plus qu'un chercheur, un partenaire commercial. Et donc, qu'il espère m'embaucher pour que je lui ramène des patients français, vu que l'intermédiaire avec qui il travaille depuis 17 ans ne sera pas là pour toujours. Et lui, il vient d'agrandir sa clinique et il est prêt à accueillir plus de patients. Et donc, finalement, c'est un peu par ce statut ambigu, mais que j'ai toujours clarifié, d'être franco-hongrois, de parler les deux langues et de me voir comme un potentiel partenaire. Et un autre agent d'une clinique, en fait, ouais, m'a clairement dit « je te verserai une commission pour chaque patient que tu m'apportes ».
Comment tu négocies de ne pas devenir un partenaire commercial dans ce moment-là et de t'en tenir à ta position de chercheur ?
Ça a été un peu parfois inconfortable et en même temps, je répétais à chaque fois. Parce que finalement, dans cette clinique où le dentiste m'a accueilli, j'y ai passé plus de 3 mois, Mais donc, je lui répétais quand même à chaque fois que voilà, je suis là pour faire une thèse. Et donc, il sous-entendait quand même très régulièrement mais que bon, ça serait bien qu'il travaille pour moi, que par exemple, l'agent avec qui il travaille, il gagne 10 fois plus que moi, que ça serait quand même plus intéressant que je ramène des patients que j'écrive une thèse de sociologie.
Tu as eu accès pendant 3 mois à l'ensemble de cette structure médicale ?
Alors, il m'a donné carte blanche complète, il m'a installé un bureau là-bas et donc je faisais partie de la vie de l'équipe et au même titre que toutes les autres personnes qui travaillaient dans cette petite structure.
Vous en avez déjà dit un mot, mais le Covid a beaucoup modifié vos terrains respectifs. Comment est-ce que vous avez ajusté vos méthodologies et de quelle façon cela a affecté le cadrage de votre objet de recherche ? Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus, Eva.
Oui, ça a effectivement affecté la méthodologie, déjà parce qu'il n'y a pas eu possibilité d'ethnographie de structures de santé. Ce qui a beaucoup changé, moi, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup fait d'entretiens. C'était en partie pour combler le manque de l'ethnographie, mais c'était aussi pour rentrer sur le terrain parce que quand tu arrives pour faire une ethnographie d'une communauté, a priori, c'est, tu te dis, je vais essayer d'aller au moment public, aux événements, comme ça, pour rencontrer des gens. Mais là, il n'y avait rien du tout. Moi, je suis arrivée à Bucarest, tout le monde était enfermé chez soi et c'était super dur de rencontrer des gens qui allaient me faire rentrer justement sur le terrain. Et donc, c'est en passant par des entretiens de gens que je contactais qu'au fur et à mesure, j'ai été intégrée à la communauté où les gens me disaient, viens, à la fois parce que moi, je m'incrustais et à la fois par, bienveillance un peu communautaire de vite, on va l'intégrer pour pas qu'elle se sente seule, quoi. Donc, c'était assez bien et à la fois, je me suis retrouvée en rentrant de mon terrain avec 150 entretiens en me disant, mais comment je vais faire pour traiter tout ça ? Et la deuxième chose, finalement, c'est que par ailleurs, la pandémie de Covid, ça a été assez révélateur aussi de plein de choses de notre terrain, notamment la question de la santé était omniprésente, la question de la circulation était aussi omniprésente. Par son absence criante où toutes les personnes disaient « mais en fait, là, je peux pas rentrer pour telle et telle chose, j'ai dû annuler mon rendez-vous médical ». Et aussi, ça a été assez rigolo de voir que, en fait, c'est des personnes qui sont très habituées à circuler et qui, là, étaient vraiment coincées. Et j'ai un exemple que je trouve intéressant, c'est du coup, les femmes d'expat, etc., tout le monde râlait parce que le lycée français était fermé et que donc il y avait la pandémie. Et elles disaient « oui, mais nous, on voudrait qu'il soit réouvert. On a les moyens de faire en sorte que le lycée français soit réouvert, etc. » Et donc, ça tournait un petit peu en informel. Et donc là, en novembre-décembre, j'assiste à une réunion avec l'ambassadrice, etc., qui venait d'arriver, donc qui se présente et qui rappelle à cette occasion que déjà, le lycée français n'est pas en dehors du territoire roumain et donc dépend des lois roumaines et donc le lycée restera fermé. Et que par ailleurs, en fait, on ne peut pas rentrer en France si on est atteint du Covid parce que c'est une maladie contagieuse et du coup, les patients ne peuvent pas monter dans les avions. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne le pensaient pas et qui se disaient « oui, mais de toute façon, si je suis malade, je serai rapatriée, je n'irai pas à l'hôpital roumain ». Parce que pour le coup, ça a été assez révélateur aussi de l'état des systèmes de santé. Le système de santé roumain a été... l'état roumain, carrément, a été très, très vite assez strict sur la réglementation, etc. Et les citoyens l'ont respecté parce qu'ils n'avaient vraiment pas envie d'aller à l'hôpital, ce qui n'a pas été le cas en France.
Martin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les conséquences du Covid sur ton terrain ? Est-ce que cela a été un révélateur à certains niveaux ?
Oui, alors déjà le marché était à l'arrêt, donc ça a pu montrer un peu la fragilité d'un marché comme ça, ou à quel point ça repose sur des circulations internationales qu'on a tellement normalisées et qu'en fait voilà, on circule en Europe hyper facilement et donc c'est même plus une question de traverser des frontières, ici ça l'est redevenu, donc surtout dans un espace de libre circulation. Donc le Covid, il a eu aussi une autre conséquence, ça m'a fait un peu réorienter mon sujet dans le sens où, vu que le marché était à l'arrêt, je me suis dit je ne vais pas rester un an en Hongrie le temps que le marché se relance. Donc je suis rentré en France et je me suis, un peu pour faire passer le temps, donc c'est des hobbies de chercheur, je me suis lancé dans la création d'une base de données des cliniques du tourisme dentaire. Il n'y a pas de base publique, etc. Donc je me suis dit j'ai le temps et c'est parti, j'ouvre un Excel et donc j'ai recensé les 200 plus grandes cliniques. Et au fur et à mesure, je rajoutais des informations, donc le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, le résultat net, la spécialisation des dentistes, qui sont les propriétaires, qui sont les actionnaires, etc. Donc on s'est retrouvé avec une grosse base de données. Donc c'était plus que de la curiosité, mais finalement, ça m'a amené vers la sociologie des marchés et la sociologie économique. Et je pense que sans ce travail, j'aurais moins une approche par le haut, un peu structurelle du marché, alors que si j'avais fait une ethnographie dans une grande clinique de 100 employés, je me serais beaucoup plus concentré sur les interactions entre les différentes catégories, les patients, etc. Donc voilà comment finalement ça a réorienté sur la construction d'un marché transnational.
Donc le Covid a également eu des conséquences sur la chronologie et l'organisation de ton terrain sur place et à distance ?
Tout à fait. Donc moi, j'avais pour projet d'y partir presque un an et d'y vivre. Donc j'ai aussi ma famille sur place. Donc toutes les conditions étaient là. Et finalement, j'ai fait beaucoup plus d'allers-retours que ce que j'avais prévu à l'origine. Donc j'y étais de septembre 2020 jusqu'en novembre, quand il y a eu un couvre-feu. Je suis revenu en janvier 2021. Et donc en espérant que ça rouvre, mais je suis rentré assez rapidement. Et après, je suis revenu en septembre. Et donc là, j'y ai vraiment passé 6 mois pour faire le gros de mon terrain.
Vos deux recherches portent sur les liens entre classe sociale et santé. Eva, dans quelle mesure ton travail nous informe sur la façon dont l'appartenance sociale structure les choix individuels d'offres de soins dans ce contexte international ?
Globalement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont les personnes sur place se socialisent à la santé en Roumanie, comment est-ce qu'elles apprennent à faire usage du système de santé au contact de leurs partenaires, de leurs proches, de leurs collègues qui vont leur transmettre comment ça marche, mais aussi beaucoup comment on s'y rapporte, comment est-ce qu'on le perçoit. Ça, c'est vraiment lié à des affaires nationales. En France et en Roumanie, on ne conçoit pas le système de la même façon, et c'est aussi lié à la classe sociale des personnes, bien sûr. Les classes moyennes et supérieures en Roumanie vont beaucoup plus avoir tendance à aller dans les cliniques privées, même si elles critiquent le fait que ça soit cher, mais comme elles peuvent se le permettre, par exemple. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont cette socialisation en Roumanie, la façon dont les Français vont se rapporter au système de soins roumain, elle va être influencée par leur socialisation à la santé en France, la façon dont ils et elles ont appris à se rapporter au système de santé en France, quels accès ils ont eu. Par exemple, pour certaines expatriées, le fait qu'en Roumanie ce soit payant, c'est pas très grave. On est content de découvrir combien coûtent les soins. Ça, par exemple, c'est très socialement marqué, alors qu'à l'inverse, en France, les classes moyennes, on est plutôt attaché à la gratuité des soins pour tout le monde, etc. Donc socialement, c'est assez marqué. Et donc, je trouve que l'étude de ces trajectoires, elle montre à la fois comment leur salaire et leur classe sociale, elle influence les accès qu'ils ont en France et en Roumanie, et aussi la façon dont ils conçoivent le système et qu'on dit conçoivent leur relation avec les professionnels de santé par ailleurs.
Martin, qu'est-ce que ta recherche révèle des asymétries à l'échelle européenne entre classes sociales et pays sur le marché de la santé ?
Une des choses qui m'a intéressée dans cette thèse, enfin qui m'a étonnée au fil de l'enquête, c'est un peu de voir comment en fait ça part des inégalités et ça les exploite en fait. Enfin, dans l'idée où il y a des inégalités entre classes sociales, des inégalités de santé et des inégalités entre pays européens. Et d'un côté, en fait, on a des patients d'Europe de l'Ouest et du Nord, et donc ici français, qui se retrouvent édentés, qui ont des très gros problèmes dentaires et qui ne peuvent pas accéder en fait, aux meilleures solutions médicales en France, qui sont très chères et pas du tout remboursées. Je pense aux implants dentaires. Par exemple, il y a souvent les devis tournent autour de 20 000, 30 000 euros. Et donc, ils se retrouvent à cacher la misère, comme ils disent, à plus sourire ou à vivre avec la honte ou alors porter un dentier amovible. Ce qui renvoie en fait très concrètement à la vieillesse ou à la pauvreté. Donc c'est aussi un marqueur. Déjà, la première chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'ampleur des inégalités de santé en France, et le dentaire en est particulièrement important. Et donc en fait, comment ça s'est mis en marché ? Alors c'est mis en marché en France aussi, enfin c'est pas une spécificité de la Hongrie, mais de l'autre côté de l'Europe, il y a des entrepreneurs, des dentistes en fait, qui vont construire une offre sur mesure pour cette population dominée, pour les attirer et pour les soigner. Et justement, là, ils jouent sur des différentiels de niveau de vie entre plusieurs pays. Et donc, ils vont proposer des soins identiques, mais à des prix cassés. Il y a un slogan d'une clinique que j'avais bien aimé qui disait « Swiss quality, German precision, Hungarian prices ». Donc, une offre qui est sur mesure et pour... bon, c'est un peu rapide de dire les pauvres de l'Ouest et du Nord, mais bon, c'est un peu ça. Et aussi, sur mesure... pour les attirer. Donc, il y a des chauffeurs qui vont chercher les gens à l'aéroport, il y a des hôtels partenaires, il y a des coordinateurs, coordinatrices francophones sur place qui les accueillent et des commerciaux francophones avec qui ils sont au téléphone avant. Et donc, finalement, c'est voilà, quelque chose d'un peu étonnant où ces entrepreneurs et dentistes vont un peu mettre en mobilité ces patients avec leur épargne et les ramener en Hongrie pour les soigner. Donc, les patients sont très contents et de l'autre côté, en fait, ils s'enrichissent grâce à ça.
Une dernière question. Les dents, la santé reproductive, ce sont des choses qui sont assez intimes. Est-ce que ça a été une barrière ou non à la parole, justement, de vos enquêtés sur ces sujets-là ? Eva, peut-être ?
Non, au contraire, plutôt pas. La relation ethnographique, elle est quand même tissée de confiance et particulièrement dans la situation dans laquelle j'étais, à savoir de migration. Moi aussi, j'étais en fait une migrante comme les autres. Il y a des liens de solidarité assez forts qui se tissent. Et la relation d'écoute aussi qui va avec l'entretien, elle amène cette confiance-là, je trouve, mais aussi parce qu'elle implique du soin. dans la relation. Et plutôt au contraire, ça a été, peut-être parce que je suis une femme aussi par ailleurs, enfin, en tout cas que je suis perçue comme femme, ça a plutôt été facile de parler de ça avec les femmes que j'ai rencontrées. Et par ailleurs, parce que je pense que l'expérience de la santé reproductive en migration, et particulièrement en Roumanie, où par exemple c'est difficile d'avoir accès à l'avortement, ou voilà, c'était aussi une expérience un peu de vulnérabilité. Et du coup, plutôt les patientes étaient contentes de me raconter, j'ai l'impression. Et en tout cas, si elles écoutent ce podcast, je leur suis reconnaissante de cette confiance.
Martin, dans le cas des dents, et comme tu le dis, c'est un très fort marqueur social. Est-ce que ça a été simple d'accéder à la parole de ces personnes sur leur santé ?
Alors finalement, j'ai rencontré les personnes en bout de parcours de soins et donc parfois au milieu. Hein, donc ils avaient encore juste les implants et rien dessus, donc c'était pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'un premier truc qui a pu jouer, c'est que je les ai rencontrés un peu en terrain neutre, donc en Hongrie. Peut-être que ça a pu aider à dire, voilà, je me confie à un inconnu que je reverrai plus. Enfin, donc ça peut aider. Et ce qu'il y a eu d'intéressant aussi, c'est que la façon dont les gens parlent de leurs dents et de leur parcours, ça révèle aussi des formes de distinction entre, par exemple, certains qui ont vachement insisté sur le fait que moi, j'ai de l'argent, je ne viens pas pour cette raison, je viens parce que c'est plus rapide. Moi, en fait, bon, je n'avais pas une santé dentaire aussi catastrophique, j'en ai toujours pris soin. Ou alors, moi, c'est un choix très réfléchi, j'ai pris beaucoup de temps pour prendre cette décision et donc quand même de mettre à distance une forme de discrédit qu'il y a comme dans le fait d'être un migrant sanitaire presque, un pauvre sans dents. Et donc voilà.
Merci beaucoup Eva Renaudot et Martin Angean de nous avoir accompagnés dans cet épisode et de nous avoir expliqué comment l'enquête ethnographique sur les mobilités de santé entre circulation des patients, accès aux structures, effet du Covid et révélateurs sociaux des trajectoires individuelles permet de saisir concrètement la manière dont les inégalités de classe s'inscrivent et se recomposent à l'échelle européenne. Je suis Mathilde Tonfourcade et ce podcast, produit par Noria Research, a été préparé par Cécile Jean-Mougin, Camilla Besca et Claire Lefort-Rieux. À la réalisation, Tante Agatha. À bientôt.